Conversation avec Hanan Haratz. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle conversation et nous abordons aujourd'hui un sujet européen, un sujet politique, celui de la montée des partis d'extrême droite. Une montée qui a une nouvelle fois été illustrée fin février en Allemagne où l'AFD, le parti alternatif pour l'Allemagne, remportait un score historique avec 20,8% des suffrages, devenant la deuxième force politique du pays. L'occasion pour nous donc aujourd'hui de tenter de comprendre les raisons du succès de ces partis d'extrême droite qui font notamment de la lutte contre l'immigration leur principal cheval de bataille. Et pour nous en parler, direction la Belgique, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre podcast Benjamin Biard. Bonjour Monsieur Biard.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes chargé de recherche au sein du secteur sociopolitique du CRISP à Bruxelles. Le CRISP, c'est le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique et vos principaux thèmes de recherche sont la démocratie, les idéologies et les partis politiques. Encore merci d'être avec nous.
Avec grand plaisir.
Alors, en introduction, je disais tout à l'heure les élections allemandes fin février qui ont consacré comme deuxième force du politique du pays l'extrême droite. C'est un score historique depuis la fin de la Deuxième Guerre. C'est aussi un parti qui n'existe que depuis 12 ans seulement. J'aimerais avoir d'abord un petit commentaire ou une analyse de votre part sur ces résultats en Allemagne.
Alors, il y a évidemment plusieurs angles d'analyse pour étudier les résultats des élections législatives anticipées qui se sont produites le 23 février en Allemagne. On pourrait penser au taux de participation extrêmement élevé, au recul historique des sociaux-démocrates, au retour à l'avant-plan d'une certaine manière de Die Linke, formation de gauche radicale, ou encore au fait que la CDU a assuré la première position et on devrait avoir son leader devrait appelé à devenir le prochain chancelier, mais véritablement, me semble-t-il, un des enseignements majeurs de ce scrutin, c'est en effet la place de l'AFD, de ce parti d'extrême droite, dans un contexte assez particulier. Il faut rappeler que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais un parti d'extrême droite n'avait jusque récemment réussi à s'imposer en Allemagne. Il y en avait le NPD, par exemple, le Parti Républicaineur en est un autre exemple, mais ils n'ont jamais réussi à franchir un seuil suffisamment important sur le plan électoral que pour être représenté au sein des assemblées parlementaires et être suffisamment influent. C'est vraiment à partir de 2013 que l'AFD a réussi à se développer et progressivement à s'imposer au point où aujourd'hui, elle est devenue la deuxième force politique de ce système partisan allemand, la première force vraisemblablement d'opposition aussi, c'est-à-dire un parti avec lequel il faut désormais pouvoir compter. Ce qui n'est pas anodin quand on sait que c'est un parti qui, contrairement à d'autres partis d'extrême droite, assume une certaine forme de radicalité, notamment avec des slogans empruntés au nazisme, par exemple.
Alors, on va revenir après sur les caractéristiques de ces différents partis en Europe, mais est-ce que cette victoire de l'extrême droite en Allemagne confirme une tendance générale en Europe? Parce que c'est loin d'être un cas isolé. En France, par exemple, aux dernières législatives, le Rassemblement national affichait 32% de voix. L'extrême droite européenne représente désormais 25% du Parlement européen. On a Giorgia Meloni en Italie depuis 2022, Viktor Orban en Hongrie depuis 2010, le PVV, le Parti de la Liberté en Hollande, qui aussi a remporté 24% en 2023. Donc, est-ce qu'on est en train d'assister à une véritable montée en puissance de l'extrême droite en Europe au cours des dernières années? Est-ce qu'il y a une convergence qui porte aujourd'hui ces partis vers des victoires électorales assez inédites?
Oui, tout à fait. C'est une tendance qu'on observe à travers l'Europe de manière croissante depuis le début des années 2000 en réalité. Et ce n'est pas propre à l'Europe d'ailleurs. Il suffit de penser à la réélection de Donald Trump aux États-Unis il y a quelques mois et à son accession à la présidence au mois de janvier 2025. Donc en effet, c'est une tendance de fond que l'on peut observer, mais on ne se limite plus aujourd'hui à observer des formations d'extrême droite qui progressent sur le plan électoral, se renforcent depuis l'opposition sur le plan parlementaire. Mais véritablement, la tendance est à l'accession de ces partis à des postes à responsabilité au sein de gouvernements, au niveau local, au niveau régional, mais aussi de plus en plus au niveau national. On peut penser à l'Autriche, on peut penser à l'Italie, on peut penser aux Pays-Bas, à la Norvège, à la Finlande, en Europe de l'Est également, à la Pologne, à la Hongrie, à l'Estonie, à la Bulgarie, par exemple, autant de pays qui ont connu, voire qui connaissent encore, pour un certain nombre d'entre eux, des situations où l'extrême droite a été appelée à exercer des responsabilités, souvent en coalition avec d'autres partis, pas toujours, comme en Hongrie par exemple, mais de manière assez importante ces dernières années. C'est un fait. En deux mots, c'est le fait qu'un certain nombre de ces formations restent dans l'opposition dans certains cas, mais amènent leur soutien à des formations, à des gouvernements minoritaires, comme c'est le cas aujourd'hui en Suède, par exemple.
Alors, on va dresser dans un instant une cartographie de cette extrême droite en Europe, mais juste pour finir sur cette petite introduction, vous avez parlé tout à l'heure du début des années 2000 comme d'un moment peut-être ou d'un tournant pour qui a entériné cette montée en puissance des partis d'extrême droite. Pourquoi c'est un point de bascule ?
Alors, en effet, je pense qu'un des moments électoraux cruciaux dans l'analyse de l'extrême droite à l'époque contemporaine, qui consacre sans doute son passage à une nouvelle phase de son développement, ce sont les élections législatives de 1999, à l'issue en Autriche, à l'issue desquelles le parti d'extrême droite FPÖ remporte un très bon résultat électoral et parvient à se hisser dans le gouvernement formé par M. Schussel. À l'époque, c'est assez historique, assez inédit de voir une formation d'extrême droite rejoindre pareil gouvernement, et d'ailleurs certaines sanctions, notamment diplomatiques, sont adoptées à l'encontre de l'Autriche pour protester contre cette situation. Depuis lors, on a vu que petit à petit, un nombre croissant de pays ont vu accéder au pouvoir des formations d'extrême droite.
Et puis 3 ans plus tard, en France, en 2002, est-ce que ça a aussi été l'arrivée de Le Pen au deuxième tour d'une élection présidentielle, d'une élection nationale, a aussi marqué un tournant ?
Ça aussi est un moment effectivement important, même si Jean-Marie Le Pen n'a pas accédé au pouvoir à cette occasion et a même été clairement battu par Jacques Chirac lors du second tour. Mais voir accéder un représentant de l'extrême droite au second tour d'une élection présidentielle sous la Ve République, c'était inédit à l'époque. Donc effectivement, c'est un élément supplémentaire. On pourrait penser toujours en 2002 à l'accession de la liste Pim Fortuyn aux Pays-Bas au gouvernement néerlandais, qui ne tiendra que quelques semaines. Ce n'est pas un gouvernement qui aura une longue durée, qu'on retiendra nécessairement longtemps non plus, mais ce sont autant d'éléments qui viennent s'accumuler, s'ajouter, qui consacrent le renforcement de l'extrême droite au niveau global à travers l'Europe.
Alors, je vous propose dans une première partie de cet entretien d'essayer de dresser un panorama politique, idéologique de ces différents partis d'extrême droite en Europe. Et ma première question, c'est quelles sont les différentes configurations dans lesquelles cette extrême droite est au pouvoir ? Parce que je crois qu'il y a des pays où elle est directement au pouvoir, d'autres où elle fait partie de coalitions. Et même quand ce n'est pas le cas, elle arrive à influencer, même en restant minoritaire, des politiques nationales.
Tout à fait. Donc, on voit aujourd'hui que l'extrême droite est extrêmement présente dans les assemblées parlementaires de manière générale de la plupart des pays européens. Il y a bien quelques exceptions, mais c'est le cas de manière générale. Dans certaines configurations, l'extrême droite est seule au pouvoir. C'est assez rare, mais aujourd'hui, c'est le cas encore en Hongrie avec le Fidesz, formation de Viktor Orban, Premier ministre hongrois. Dans la plupart des configurations, en réalité, l'extrême droite est plutôt en coalition avec d'autres formations, souvent de droite, mais parfois aussi de gauche ou de centre-gauche. On peut penser aujourd'hui à la situation en Italie, où Giorgia Meloni est à la tête d'un gouvernement qui associe 3 formations politiques, 2 d'extrême droite, 1 de droite, par exemple. On peut penser aussi à la situation aux Pays-Bas actuellement, et depuis un peu moins d'un an, où on a également une coalition qui associe différentes formations plutôt de droite avec le parti PVV, de Geert Wilders. Dans d'autres configurations encore, on a une extrême droite à ce point influente qu'elle reste dans l'opposition, mais apporte son soutien à des gouvernements minoritaires. Ça a été le cas aux Pays-Bas entre 2010 et 2012, ça a longtemps été le cas au Danemark dans les années 2000 et 2010, jusque 2019, c'est le cas encore aujourd'hui, par exemple, en Suède. On a un gouvernement minoritaire, qui associe notamment les conservateurs, mais qui, pour pouvoir mener son action politique, a besoin d'un soutien depuis l'opposition, en l'occurrence celui des démocrates de Suède, parti d'extrême droite dans ce pays. Et on sait qu'en politique, tout se négocie, on n'apporte pas son soutien gratuitement d'une certaine manière, et donc en réalité, ça consacre l'influence importante exercée par ce type de formation. Et puis dans toutes les autres configurations où l'extrême droite est présente, en réalité, elle est dans l'opposition, tout simplement, en tant que formation plus ou moins importante sur la base des suffrages qu'elle a pu obtenir à l'issue d'élections diverses et variées, ce qui ne veut pas dire, en effet, que ce ne sont pas des formations influentes. Mmh. Et dans les faits, on a pu estimer, évaluer, sur le plan scientifique notamment, la capacité d'influence de ces formations. Par exemple, le Vlaamsbelang en Flandre, au nord du pays, en Belgique, qui n'a jamais exercé de responsabilité au niveau régional ou national, mais qui, pour autant, est une formation influente, qui arrive, pour le dire très simplement, à marquer de son empreinte, à laisser sa patte, d'une certaine manière, sur toute une série de législations, par exemple en matière migratoire.
Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer, je donnais le cas de l'Allemagne tout à l'heure, mais que l'extrême droite, qui a longtemps été absente du spectre politique dans des pays qui avaient connu au XXe siècle des dictatures autoritaires, je pense à l'Espagne, le Portugal, évidemment l'Allemagne aussi, comment on explique que dans ces pays-là, que l'on croyait immunisés contre le retour de ce genre de parti, eh ben, l'extrême droite arrive aujourd'hui à exister et même à s'imposer?
On a longtemps cru, en effet, qu'il y avait une forme d'immunité dans ces pays face à l'extrême droite. On a longtemps cru que les plaies étaient encore trop ouvertes que pour pouvoir observer un redéploiement de l'extrême droite. Je pense que vraisemblablement, il y a un renouvellement de génération peut-être qui peut s'opérer. On sait que l'extrême droite parvient particulièrement bien à performer auprès des plus jeunes. On l'a encore observé en Allemagne le 23 février dernier, par exemple. C'est un élément. Un deuxième élément, c'est que ces formations parviennent à surfer sur certains critères globaux, mais notamment un ressentiment politique qui s'exprime dans un tas de pays. Si on prend la situation au Portugal ou en Allemagne, dans le cas portugais, il y a eu des élections au mois de mars 2024, dans le cas allemand, le 23 février 2025. Dans ces deux cas, il s'agissait d'élections anticipées qui faisaient suite à la chute prématurée de gouvernement dans le cadre d'une affaire, en tout cas présumée, de corruption au Portugal, dans le cadre d'un autre contexte, mais néanmoins de crise politique dans le contexte allemand aussi. Donc je pense que ce sont des éléments importants qui ont un rôle dans l'explication de cette résurgence de l'extrême droite dans ces deux, trois pays pris pour exemple.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des partis qui restent aujourd'hui relativement préservés? Vous êtes en Belgique, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner aussi des explications sur le fait que c'est un pays, notamment la Wallonie, qui résiste encore à l'influence de l'extrême droite? Est-ce qu'il y a d'autres pays comme la Belgique où l'extrême droite n'arrive pas encore à percer?
Alors, il y a plusieurs pays en Europe, ils ne sont pas majoritaires, mais où l'extrême droite ne parvient pas ou plus à percer. On peut penser à l'Irlande, à l'Islande, la petite île de Malte, voire Chypre également. Mais vous avez tout à fait raison de souligner le cas de la Belgique, qui est tout à fait singulier si on considère que c'est un État fédéral, alors au même titre que l'Allemagne, l'Autriche ou la Bosnie-Herzégovine ou encore les États-Unis par exemple, mais qui connaît une situation pour le moins particulière lorsqu'on analyse l'extrême droite. C'est-à-dire une extrême droite à travers le Vlaamsbelang, parti d'extrême droite flamand au nord de la Belgique, qui se porte très bien, qui d'ailleurs a tutoyé la première place lors des sondages qui se sont succédés pendant près de 5 ans jusqu'aux élections du 9 juin dernier. Finalement, elle s'est hissée au deuxième rang des partis politiques, mais c'est quand même déjà une position très confortable, même si elle reste dans l'opposition. En revanche, dans le reste de la Belgique, en Wallonie particulièrement, en Bruxelles également, on observe que l'extrême droite est incapable de se développer. Elle est complètement marginale aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tentatives. Le parti chez nous, c'est l'appellation d'un petit parti d'extrême droite qui a tenté de s'imposer à partir de 2021, n'a pas réussi durant les différents scrutins que la Belgique a connus en 2024 à s'imposer dans le paysage électoral et partisan, et aujourd'hui cette formation, même au niveau local, n'a réussi à décrocher qu'un seul siège de conseiller communal, au niveau municipal donc, dans une petite localité, mais n'a pas réussi à s'imposer à travers le paysage électoral et partisan. Donc effectivement, en Belgique, une situation extrêmement contrastée qui intéresse plus d'un observateur politique d'ailleurs.
Mais à quoi est-elle due, cette situation contrastée? Quels sont les facteurs explicatifs à ça, au fait que l'extrême droite a du mal à percer?
Il y en a certainement plusieurs. On ne peut pas en prendre un seul isolément, mais j'en pointerai peut-être cinq. Le premier, c'est l'habitude de certaines querelles intestines au sein de l'extrême droite belge francophone, c'est-à-dire que ce sont des formations qui, généralement, ne parviennent pas à s'entendre, ne parviennent pas à vivre sans conflit interne. Deuxième facteur, c'est l'incapacité de l'extrême droite du côté francophone de se doter d'un leader suffisamment charismatique qui parviendra à rassembler derrière lui différentes tendances éventuellement de l'extrême droite. Un troisième facteur, c'est la mobilisation très intense de la société civile et plus particulièrement des mouvements antifascistes qui entendent coûte que coûte, à tout prix, empêcher l'extrême droite de se structurer, par exemple en empêchant quelques leaders d'extrême droite de se réunir dans un local, dans une salle de meeting, par exemple, pour tenir un événement. Quatrième élément, c'est une spécificité bien belge francophone, c'est un cordon sanitaire médiatique. C'est-à-dire que depuis le début des années 90, les principaux médias audiovisuels ont adopté en Belgique une politique par laquelle ils refusent de donner la parole en direct à des représentants de partis d'extrême droite. Et donc, évidemment, ça réduit la visibilité de ces formations et ça contribue aussi à lutter contre toute forme de banalisation de ces formations, puisque si on ne les invite pas, ça laisse sous-entendre qu'ils ne sont pas des partis comme les autres. Et puis, cinquième, mais peut-être pas dernier facteur, c'est la faiblesse du sentiment d'identité nationale au sud de la Belgique, alors que le sentiment d'appartenance à une nation flamande est, lui, beaucoup plus fort au nord de la Belgique, en Flandre en l'occurrence. Donc, je pense qu'on a ici toute une série de facteurs, à la fois propres à l'extrême droite elle-même, ou plutôt extérieurs à l'extrême droite, comme cette mobilisation antifasciste ou ce cordon sanitaire médiatique, qui contribuent à expliquer pourquoi on a ce contraste aussi saisissant lorsqu'on analyse l'extrême droite en Belgique.
Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a une véritable vigilance de la part de la société civile, des médias, une vigilance qui a peut-être décru dans d'autres pays. Par exemple, ce que vous disiez sur la vigilance des médias, pour ne pas banaliser le discours de l'extrême droite, c'est une question qui se posait en France au début des années 80, dans les années 80, et puis qui a fini par céder et qui a peut-être joué un rôle, vous pensez, dans la banalisation de ces discours d'extrême droite ?
Oui, tout à fait. Alors, ils ne sont pas certainement les seuls acteurs. Il ne faut pas mettre tous les médias dans le même panier, bien entendu. Mais on a certains médias qui soit adoptent une ligne éditoriale d'extrême droite ou qui, je pense que c'est plutôt cela qu'on observe de manière générale, par exemple en France, qui font la part belle à l'extrême droite en invitant de manière régulière, en donnant une fameuse tribune à certains représentants de l'extrême droite, pas toujours de l'extrême droite partisane d'ailleurs, du Rassemblement national ou de Reconquête par exemple, si on parle du cas français, mais aussi de représentants de mouvements identitaires, de groupuscules d'extrême droite qui à certains moments, sur certains médias, ont une certaine liberté d'expression qui leur permet éventuellement de rassembler assez largement derrière eux. Donc en effet, c'est un élément important. Alors je disais pas seulement les médias parce qu'en réalité, il y a d'autres acteurs, notamment partisans, des partis politiques de gauche comme de droite d'ailleurs, qui contribuent à certains égards, selon les contextes, selon les pays, à banaliser aussi les idées portées traditionnellement par l'extrême droite et ce faisant, en réalité, à normaliser les partis d'extrême droite qui les portent traditionnellement.
Alors toujours pour essayer de comprendre les contours de cette extrême droite européenne, est-ce qu'il y a une base idéologique commune à ces partis ? Est-ce qu'il y a des éléments de langage que l'on peut retrouver d'une manière relativement constante, quel que soit le pays. Je pense notamment à la question de la lutte contre l'immigration, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, traditionnellement, j'ai tendance à définir, dans la foulée de toute une série de collègues, l'extrême droite à partir de trois éléments caractéristiques qui définissent ce qu'est une idéologie. C'est-à-dire une conception inégalitaire de la société, c'est-à-dire un projet nationaliste pour la société, et c'est-à-dire, troisième et dernier critère, des moyens d'action radicaux, c'est-à-dire une idéologie qui met sous tension la démocratie, soit la démocratie en tant que régime politique, ou alors, et aujourd'hui c'est principalement dans cette configuration qu'on peut analyser l'extrême droite, en mettant sous tension la démocratie à travers les valeurs, les principes libéraux qui la définissent aujourd'hui. Par exemple, l'état de droit, le respect des droits humains ou l'équilibre des pouvoirs. Et ça, c'est une définition assez générique, assez globale, qui permet de définir ce qu'est l'extrême droite. Dans la foulée, on comprend bien que tout cela se traduit par un rejet fort de l'immigration, une volonté souvent d'assimiler immigration et insécurité en termes de discours, c'est un grand classique, ou une manière réduire les droits accordés à toute une série de minorités ethniques, raciales, sexuelles éventuellement aussi, dans la société. Ça, ce sont des grands classiques qui vont trouver à s'exprimer d'une manière ou d'une autre, selon le contexte où les extrêmes droites se développent, mais que l'on retrouve traditionnellement dans toutes ces formations.
Ce que j'entends dans ce que vous dites, Monsieur Biard, dans ces éléments de définition, c'est qu'il y a une grande part de revendications identitaires, de renfermement nationaliste. On entend beaucoup parler du risque du grand remplacement, notamment. Mais Par ailleurs, l'idée qu'on a aussi de l'extrême droite, c'est qu'elle prospère sur le terrain des inégalités sociales. Or, dans cette définition, le volet économique ou le volet de lutte contre l'inégalité sociale est assez absent.
Oui, parce qu'en réalité, les différents partis d'extrême droite peuvent adopter des positionnements assez différents les uns par rapport aux autres sur la question socio-économique. Ce n'est pas un élément essentiel dans la définition d'une idéologie d'extrême droite, même si certains vont complètement s'ancrer dans la lutte contre le capitalisme, d'autres vont complètement épouser le credo néolibéral tel qu'il s'est imposé dans les années 80. Mais on peut voir en tout cas certaines variations et certaines formations peuvent elles-mêmes évoluer. On voit aujourd'hui certains partis, comme en France le Rassemblement National par exemple, qui se dotent de certains accents sociaux pour essayer de montrer qu'ils peuvent espérer capter la voix des ouvriers ou des électeurs qui traditionnellement votent à gauche. Ce sont certaines évolutions que l'on peut observer, mais c'est difficile en tout cas de généraliser les positionnements socio-économiques des partis d'extrême droite tant ils sont assez variés en réalité.
Et on entend beaucoup parler aujourd'hui, tout à l'heure vous évoquiez la réélection de Donald Trump, on a vu aussi en Amérique latine, notamment en Argentine, l'arrivée d'un président qui partage beaucoup de caractéristiques aussi de cette forme d'extrémisme politique. Et on entend beaucoup parler aujourd'hui de la crainte d'un retour du fascisme, d'une sorte de triste revival des années 30. Est-ce que ça vous semble excessif comme crainte ou est-ce qu'il y a de vraies raisons de s'inquiéter ?
Je crois qu'il faut rester prudent dans les comparaisons, le contexte est différent, on est évidemment dans une période différente de celle des années 30, bien entendu. Cela étant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains éléments de ressemblance, notamment dans le développement de certains partis d'extrême droite, bien entendu. Et donc, clairement, il faut pouvoir rester attentif et veiller à ce que l'histoire ne se répète pas, bien entendu.
Est-ce qu'il y a, on a parlé des éléments idéologiques communs, des éléments de langage, est-ce qu'il y a aussi un électorat type de ces partis dans les différents pays qu'on a évoqués ? Est-ce que la base électorale a évolué ? Tout à l'heure, vous évoquiez les jeunes, les 25-34 ans, par exemple, en Allemagne, sont très attirés et votent beaucoup pour l'extrême droite. Donc, est-ce qu'il y a une base électorale qui a évolué ? Et si oui, dans quel sens ?
Alors oui, on peut observer un électorat type à partir d'au moins trois caractéristiques. La première, vous venez de le rappeler, c'est la question de l'âge. On a des jeunes qui votent souvent assez massivement pour l'extrême droite. Pas seulement. Dans le cas allemand, d'ailleurs, il y a davantage de jeunes qui ont voté pour la gauche radicale de Die Linke. Néanmoins, on voit que l'extrême droite attire une proportion importante de jeunes. Deuxième caractéristique, c'est celle du genre, où généralement, on a davantage d'hommes que de femmes qui votent pour ces formations d'extrême droite. Troisième caractéristique, c'est celle du capital, je dirais, socio-culturel ou socio-éducatif, où on observe que les personnes dotées d'un plus faible niveau d'éducation ont davantage tendance que celles dotées d'un plus haut niveau d'éducation, de scolarité, à voter pour l'extrême droite. Ça, ce sont les caractéristiques globales que l'on peut observer déjà depuis un certain nombre d'années à travers l'Europe pour ce qui concerne l'électorat des partis d'extrême droite. Ça ne veut pas dire que ces formations ne parviennent pas à faire évoluer tout cela. Ils ne peuvent pas espérer élargir leur base électorale. Par exemple, lors des élections législatives françaises des mois de juin-juillet 2024, on observait que le Rassemblement national était capable d'aller attirer davantage de femmes ou davantage de personnes retraitées parmi son électorat. Donc on voit que des évolutions peuvent être observées, que certaines prétentions électorales parfois parviennent à se concrétiser pour élargir cette base électorale, mais on a quand même cet électorat type qui, classiquement, a pu être déjà observé depuis longtemps.
Et est-ce qu'il y a une convergence aussi dans le profil des leaders ? Est-ce qu'il y a... on a vu Jordan Bardella monter très très vite en France. Est-ce qu'il y a une genre de convergence dans ces profils des leaders d'extrême droite aujourd'hui, en Europe, mais même au-delà ?
Ça me paraît moins évident, si ce n'est que souvent, ce sont des leaders assez charismatiques. Mais au-delà de cela, je pense que c'est moins évident. Souvent et longtemps, on a vu essentiellement des hommes présider ou devenir les leaders de formations d'extrême droite, mais on a quand même désormais quelques contre-exemples assez intéressants. Marine Le Pen en France, il y a longtemps eu une femme qui a dirigé le Parti populaire danois également. Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, présidente de Fratelli d'Italia pendant de nombreuses années, est aussi une femme. Et évidemment, la coprésidente de l'AFD en Allemagne, Alice Weidel, qui aussi est une femme. Donc on voit qu'il y a des évolutions sur cet aspect, Quant au profil plus profondément, comme de capital scolaire par exemple, de niveau d'éducation ou de l'âge encore, là on voit que c'est assez variable. Un cas n'est pas l'autre, un parti n'est pas l'autre, et on voit davantage de diversité, me semble-t-il.
Alors maintenant qu'on a dressé un panorama de ces différents partis et de leurs discours, j'aimerais qu'on s'arrête un instant pour essayer de comprendre les raisons ou les ressorts de leur succès politique. Et d'abord, toute première question, si ces partis gagnent du terrain, c'est que d'autres partis en perdent. Donc lesquels, au détriment de quoi ou de qui se fait cette montée des extrêmes en Europe ?
Alors c'est très différent d'un cas à l'autre. Dans certains cas, ça se fait au profit de l'extrême droite, mais au détriment soit de l'abstention d'une certaine manière. On voit que certains qui n'avaient plus envie de se diriger vers les urnes se mobilisent pour voter pour l'extrême droite. Dans d'autres cas, c'est au profit au détriment de la gauche radicale. Dans d'autres cas, au parti, et c'est généralement la situation que l'on observe le plus, au détriment des formations traditionnelles de gauche, de droite, de centre, qui classiquement captaient le plus grand nombre de voix. En tout cas, c'est souvent au détriment des partis de gouvernement, de ceux qui sont au pouvoir, qui ont une expérience de pouvoir et qui perdent des plumes d'une certaine manière au profit de ces formations d'extrême droite.
Mais pourquoi ? Parce qu'on ne leur fait plus confiance ? On estime qu'ils ont été aux manettes et qu'ils n'ont pas fait le job ? Ou est-ce qu'il y a un renouvellement aussi générationnel ? Est-ce que c'est aussi un problème de représentants aussi ? Parce qu'il y a peut-être une génération politique qui n'a pas été renouvelée dans ces partis et qui explique qu'ils attirent moins. À quoi ça tient ce manque d'attractivité de ces partis ?
Je pense particulièrement au fait que l'extrême droite, l'extrême gauche aussi dans certaines mesures, tient des discours qui visent à décrédibiliser les partis au pouvoir. Ce sont souvent aussi des partis anti-establishment, qui utilisent un style de communication que l'on qualifie de populiste, qui oppose les élites à un peuple qui serait paré de toutes les vertus, en l'occurrence. Et donc, on a ainsi un discours qui vise à délégitimer, à décrédibiliser les partis de gouvernement, les pointant du doigt pour leur responsabilité dans la situation actuelle d'un pays, que ce soit une situation réelle ou fantasmée dans certains cas en matière migratoire, sécuritaire, voire même socio-économique, selon les situations. Donc voilà, je pense que c'est principalement de cette manière rhétorique, à travers des propositions souvent simples, en titillant les instincts primaires de la population en termes de crainte, de peur. Je pourrais parler aussi de crainte de déclassement social, de crainte de perte de repères culturels, par exemple, que joue l'extrême droite à travers un discours, une rhétorique généralement plutôt bien rodée.
Mais pourquoi est-ce que cette rhétorique arrive à marcher, même quand les démentis, et notamment à travers des chiffres, sont là, par exemple ? Pourquoi venir à l'immigration, à la question migratoire ? Parce que c'est aussi beaucoup ce qui peut intéresser nos auditeurs. C'est les chiffres contredisent complètement les fantasmes qui sont brandis par l'extrême droite. On parle du coût de l'immigration, mais l'apport de l'immigration est quand même beaucoup plus important. Qu'est-ce qui fait que leur discours et leur rhétorique continuent à fonctionner ?
Parce que ce sont des discours généralement simplistes qui ne vont pas s'embarrasser de trop de détails techniques ou chiffrés pour faire la démonstration de leur programme, par exemple, et qui communiquent très bien, notamment via les réseaux sociaux. Le meilleur exemple, sans doute, est celui du Vlaams Belang en Belgique flamande, qui est un de ceux qui investit le plus, pas seulement à l'échelle de la Belgique, mais au niveau européen, sur les réseaux sociaux. Ce sont des centaines de milliers d'euros qui sont dépensés chaque année sur les plateformes, par exemple, du groupe Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Donc, des montants colossaux sur des messages souvent très simples, très directs, qui, je le disais, tillent les instincts primaires de la population, pour me répéter, et donc qui vont jouer, surtout lorsque un contexte s'y prête. Dans le contexte de la campagne électorale allemande, par exemple, plusieurs attaques criminelles ont été perpétrées, notamment par l'extrême droite, d'ailleurs, à certains moments, mais aussi par certains demandeurs d'asile en situation irrégulière qui ont été pointés du doigt et sont des faits sordides, mais des faits divers qui ont été montés en épingle par l'extrême droite pour tenter de montrer qu'en effet, on observe une recrudescence de ce type d'attaque par des personnes d'origine étrangère. Et donc, c'est plus facile lorsqu'il y a déjà un contexte de fragilité, d'une certaine manière, dû à un contexte tel que celui-ci qui existe au sein de la population, pour faire percoler le discours que vous tenez parfois depuis plusieurs décennies.
Mmh. Mais ce qui est quand même assez étonnant et qui peut paraître contradictoire, c'est que ce sont à la fois des discours qui sont assez radicaux, radicaux, pardon, très simplistes sur ces questions identitaires de migration, etc. Et qu'en même temps, il y a une forme de discours qui est très lisse aujourd'hui. Leur image est devenue très lisse, leur discours est devenu lisse alors même que leurs idées sont radicales.
Alors ça dépend de quelle formation politique. Si on écoute l'AFD en Allemagne, ce n'est sans doute pas la même chose que le Rassemblement National en France. Et donc c'est vrai qu'il y a un lissage du discours sur la forme en réalité. Ce sont des formations qui essaient, comme on le dit souvent, de se dédiaboliser pour gagner en légitimité. Le but c'est d'élargir leur base électorale pour tenter d'avoir un score toujours de plus en plus important et in fine espérer exercer le pouvoir. Si on reprend le cas français, Jean-Marie Le Pen, longtemps, n'a jamais voulu exercer le pouvoir. C'est sans doute ce qui lui faisait le plus peur dans sa vie politique. Aujourd'hui, Marine Le Pen ou Jordan Bardella sont dans un tout autre état d'esprit. Ils ont la volonté d'accéder au pouvoir et pour ce faire, procèdent effectivement à ce lissage de discours. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas se limiter à la forme, à ce type de discours. C'est aussi de pouvoir étudier sur le fond le type de proposition électorale qui figurent dans leur programme, qui figuraient par le passé déjà dans leur programme. Et on voit que globalement, il y a une certaine forme de continuité, qu'en réalité, si on reste sur le cas du Rassemblement national, les propositions que contenait le programme du FN, comme on l'appelait encore sous Jean-Marie Le Pen au début des années 90, eh bien pour l'essentiel, elles figurent encore dans le programme de Jordan Bardella aujourd'hui en France. Donc on voit que sur le fond, ce n'est pas si évident que cela qu'il y a du gommage, du lissage ou une évolution.
Mais le lissage, il vient aussi du fait que des partis traditionnels récupèrent une partie de ce discours de l'extrême droite, parce qu'ils ont bien compris qu'ils avaient un électorat potentiel et qu'il y a aujourd'hui des idées portées par l'extrême droite qui paraissaient inacceptables il y a encore 15 ans ou 20 ans et qui sont aujourd'hui reprises par des partis traditionnels. Et le fait qu'ils soient traditionnels, ça leur donne de la crédibilité et de la légitimité.
Tout à fait. On parle souvent de l'élargissement de la fenêtre d'Overton pour qualifier l'élargissement du champ de ce qui peut être dit ou ne peut pas être dit, en tout cas considéré comme socialement acceptable dans l'expression rhétorique, c'est un phénomène auquel on assiste aujourd'hui. Et en effet, certains partis politiques, certains leaders, certains médias, comme on le disait en première partie d'entretien, ont effectivement contribué à l'élargissement de cette fenêtre d'Overton, c'est-à-dire à la banalisation de certaines idées, certaines expressions type de l'extrême droite, en récupérant par exemple l'expression « grand remplacement », « ensauvagement de la nation » ou encore « préférence nationale », autant d'expressions classiquement utilisées par l'extrême droite et qui aujourd'hui semblent avoir dépassé le champ strict de l'extrême droite.
Alors, tout à l'heure, on évoquait en faisant la cartographie les différentes situations. L'extrême droite est au pouvoir ou en tous les cas pèse dans les prises de décisions politiques. Est-ce qu'on peut dresser un bilan, ou est-ce que c'est trop tôt, un bilan de la gouvernance de ces partis eux qui s'engagent sur ces questions liées à la crise de la démocratie, à la crise migratoire, est-ce qu'ils obtiennent des résultats? Et une question plus précise par rapport à la Hongrie, puisque Viktor Orban est quand même à la tête du pays depuis 2010, donc il a une certaine longévité, est-ce qu'on peut dresser un bilan de sa gouvernance et des raisons qui expliquent qu'il se maintienne au pouvoir?
Alors dans le cas de Viktor Orban, c'est assez particulier parce qu'en réalité, il n'a pas toujours été d'extrême droite. C'est en essayant de singer le parti Jobbik, un parti d'extrême droite hongrois, qu'il a réussi à être qualifié d'extrême droite en récupérant le discours de l'extrême droite, mais en mettant aussi en œuvre directement certaines propositions, classiquement certaines promesses électorales de l'extrême droite. De manière générale, je dirais, selon les cas, ça peut être un peu tôt, dans le cas néerlandais par exemple, le gouvernement n'est en place que depuis le mois de juillet, c'est évidemment beaucoup trop tôt. Néanmoins, il y a certaines configurations qui permettent de déjà analyser la situation. Et ce qu'on observe, c'est que généralement, il y a certaines entailles posées ou portées à l'état de droit, à l'équilibre des pouvoirs, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, par exemple, en Pologne, à l'indépendance des médias, en Hongrie, par exemple, sous Orban aussi, mais également de nombreuses entailles portées aux droits humains, telles que consacrées dans la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple. Et là, c'est fondamental, évidemment, parce que ça permet de justifier l'appellation même d'extrême droite pour ce qui concerne ces différentes formations.
Est-ce qu'il y a, on va bientôt arriver à la fin de l'émission, donc je vais m'acheminer un peu vers les questions de conclusion et les perspectives à venir. Est-ce qu'il y a des garde-fous aujourd'hui, et notamment constitutionnels, qui permettent de limiter les risques posée par l'arrivée de ces partis au pouvoir. On a vu récemment Trump aux États-Unis qui a, parmi ses premiers décrets, signé les décrets concernant la déportation d'immigrés, la déchéance de, enfin, la fin du droit du sol. Et tout de suite, il y a eu les barrières, les garde-fous juridiques pour protéger de ça. Est-ce qu'en Europe, les pays sont plus ou moins protégés par des garde-fous qui pourrait empêcher l'extrême droite d'atteindre aux fondamentaux de la démocratie?
Tout dépend d'un pays à l'autre, en réalité. Si on prend le cas de l'Allemagne, on a commencé cette émission à travers cette situation bien précise qui nous plonge au cœur de l'actualité au niveau européen, certainement. La Constitution prévoit la possibilité d'interdire un parti. Et d'ailleurs, un parti d'extrême droite a déjà été interdit au début des années 50 par la Cour constitutionnelle allemande, en ce sens qu'il posait une réelle menace pour la démocratie. Plusieurs demandes en ce sens ont déjà été faites à l'encontre de l'AFD, de ce parti d'extrême droite qui se porte aujourd'hui très bien en Allemagne, mais on voit que ce n'est pas si évident que cela de pouvoir dissoudre telle formation. C'est sans doute le garde-fou le plus fort, puisque lorsque vous ne permettez plus à ce parti d'exister, eh bien, de facto, vous empêchez ce parti d'accéder au pouvoir et de mettre en œuvre un certain nombre de promesses qui pourraient mettre à mal la démocratie. Dans d'autres configurations, j'ai parlé aussi durant cette émission du cas de la Belgique et de la Belgique francophone particulièrement. On a un mécanisme, alors qu'il n'est pas constitutionnel, mais qui a acquis une forme légale à travers le temps, qui est ce cordon sanitaire médiatique. Un accord par lequel les médias ne donnent pas de temps de parole libre en direct à des représentants de l'extrême droite, par exemple. C'est une autre ou un autre garde-fou. Je pense que ce garde-fou peut aussi s'exprimer au niveau de la société, de manière générale. Là aussi, j'ai évoqué la force de la société civile, des mouvements antifascistes, mais pas seulement, pour tenter de décrypter les discours de l'extrême droite, de mieux décoder, voire repérer les fake news, aussi dans les différents discours qui peuvent être entendus, repérés sur les réseaux sociaux, par exemple, mais aussi une action plus en aval, visant à lutter contre le développement de l'extrême droite. Plus fondamentalement, je dirais qu'il y a certains textes qui consacrent, notamment au niveau européen, le respect de certaines valeurs. Le respect des droits humains, par exemple, en est un fondamental, et qui, s'ils sont effectivement respectés, permettent de veiller au maintien de nos démocraties. Et d'ailleurs, certaines sanctions ont déjà été adoptées à l'encontre de la Hongrie pour ne pas avoir respecté certains ou certaines des libertés fondamentales comprises dans les traités européens. Donc on voit qu'il existe des garde-fous. Toujours est-il que l'extrême droite semble progresser au niveau régional, au niveau national, au sein des institutions européennes également. Et on peut se questionner, en tant que formation qui fondamentalement met sous tension nos démocraties, on peut se questionner sur l'affaiblissement potentiel de ces garde-fous à travers le temps. Évidemment, seul l'avenir nous le dira.
Alors justement, puisque vous évoquez l'Europe, je le disais tout à l'heure, l'extrême droite aujourd'hui, c'est 25% du Parlement européen. Est-ce qu'ils ont une sorte de ligne de conduite commune ou est-ce qu'ils sont divisés aujourd'hui? Parce que je crois qu'il y a deux ou trois formations au niveau du Parlement européen.
Alors il y a trois groupes politiques. Alors il y a certainement deux groupes politiques au niveau du Parlement européen que l'on peut qualifier d'extrême droite. Il y en a un troisième, les conservateurs et réformistes européens qui associent des partis d'extrême droite. Par exemple, ce Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni en Italie, mais qui associe aussi d'autres formations qui ne sont pas d'extrême droite. Par exemple, la NVA, la Nouvelle Alliance Flamande, comme formation, la formation du Premier ministre actuel en Belgique. Donc, on a différents groupes politiques au sein desquels l'extrême droite se regroupe. Ce n'est pas tant par différents idéologiques, me semble-t-il, que cette tension semble apparaître, mais je pense surtout stratégique. Par exemple, au mois de mai 2024, juste avant les élections européennes, on a observé en France Marine Le Pen qui réclamait l'exclusion de l'AFD allemande du groupe politique Identité et Démocratie. C'était l'appellation à l'époque du groupe politique auquel appartenait Marine Le Pen, qu'à sa formation politique au niveau européen. Pas tant sur fond de désaccord idéologique, alors c'est ce qui a été présenté en effet, mais globalement, lorsqu'on lit les programmes, on voit bien que ce sont des formations qui s'entendent assez largement. Néanmoins, l'AFD, optant pour un caractère radical dans l'expression, pouvait faire de l'ombre à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, qui tentent de légitimer leur formation, de la dédiaboliser. Et donc, on voit que c'est plutôt des éléments de nature stratégique qui s'opèrent et qui concourent à cette division de l'extrême droite au niveau européen, mais à nouveau au niveau idéologique. On voit que les différences ne sont pas si fondamentales que cela entre ces différents partis, en tout cas pour ce qui constitue le cœur idéologique de ce qu'est l'extrême droite, notamment en matière migratoire et sécurité.
Alors, qu'est-ce qui pourrait désamorcer ? Je sais que c'est une vaste question et que la réponse n'est très certainement pas évidente, mais qu'est-ce qui pourrait désamorcer la logique de cette rhétorique de l'extrême droite aujourd'hui, notamment sur la question migratoire, la question de l'identité nationale ?
Vaste question, évidemment, et ce serait prétentieux de ma part de vouloir y amener une réponse très, très concrète et très directe. Néanmoins, je pense qu'un des ressorts du développement de l'extrême droite, c'est notamment une crise de la démocratie représentative très profonde qui se renforce d'année en année, pas seulement en Europe d'ailleurs, les démocraties occidentales de manière générale et même au-delà. Et donc, pour enrayer le développement de l'extrême droite ou des extrémismes d'ailleurs de manière générale, ben, vraisemblablement, un des éléments de base, mais ce n'est pas si évident que cela, c'est de pouvoir réenchanter la démocratie, redonner confiance aux citoyennes et aux citoyens dans le fonctionnement même de notre démocratie aujourd'hui, de nos institutions, des élus et des élus. Je pense que c'est un élément fondamental pour ensuite tenter de progresser sur la voie démocratique dans ces différents États européens.
Une dernière question, Monsieur Viard. On a parlé à plusieurs reprises de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis et de ses acolytes. Est-ce que ce retour au pouvoir de Donald Trump, avec tout le discours qu'on lui connaît, peut jouer sur la perception que l'on peut avoir des extrêmes ? Est-ce que ça peut provoquer un sursaut de se dire là, cette fois, ça va trop loin et il faut enclencher une nouvelle dynamique ? Ou est-ce que vous pensez au contraire que cela va banaliser davantage ces discours, par exemple, de préférence nationale, de discours sur l'immigration, etc. ?
Alors, j'aurais envie de vous répondre non et oui à la fois. Je m'explique. Non, dans le sens où il n'a pas fallu attendre Donald Trump pour voir déjà l'extrême droite engranger de nouveaux succès et progresser. Je le disais, cette progression s'observe depuis la fin des années 90 et le début des années 2000 à travers l'Europe notamment. Et puis, oui, quand même, dans le sens où ce sont les États-Unis qui sont particulièrement visibles et observés, scrutés depuis l'Europe, d'autant plus quand on observe les velléités d'ingérence, d'influence de la part de Donald Trump, de M. Vance, son vice-président, de Elon Musk également, qui ont déjà à plusieurs reprises apporté leur soutien, par exemple en pleine campagne électorale allemande, à ce parti d'extrême droite AfD. Donc là, on observe effectivement une influence qui peut s'exercer, voire renforcer l'extrême droite au niveau européen.
Mais est-ce que ça, c'est inédit ? Pardon, je vous interromps, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, de cette ingérence américaine avec Elon Musk qui était intervenu par vidéoconférence dans un congrès de l'AFD. Il y a eu aussi Vance qui était en Allemagne. On a beaucoup parlé de ça. Est-ce que c'est inédit, ça, cette forme de coalition, d'influence, en tous les cas, qui se crée ? Comme s'il allait y avoir une forme d'international de l'extrême droite.
Je n'irai pas encore jusque-là, en tout cas, mais c'est vrai que à ce point, une tentative d'influence aussi marquée, aussi ouverte, c'est assez rare, d'autant plus que Elon Musk peut jouer avec son réseau social X aussi pour donner de la visibilité à ses différentes personnalités. Mais n'oublions pas qu'en 2019, par exemple, à la veille des élections européennes, un ancien conseiller de Donald Trump à la présidence avait lui aussi entrepris une tournée en Europe pour essayer, auprès du Rassemblement national, auprès du Parti populaire en Belgique francophone, malgré tout aussi, et dans d'autres pays européens, d'exercer une influence et de booster l'extrême droite en vue des élections européennes.
Vous parlez de Steve Bannon ?
De Steve Bannon, tout à fait, qui avait même créé le mouvement, qu'il avait qualifié de mouvement, des movements, c'était l'appellation de cette structure qu'il essayait d'imposer en Europe pour exercer une influence. Ça n'avait pas tellement fonctionné. Et je crois que ce sont principalement des facteurs propres aux différents États européens, notamment en matière de crise de la démocratie représentative, de rapport à l'immigration, à la sécurité, qui ont contribué au développement de l'extrême droite plus que Steve Bannon en soi.
Merci beaucoup, Monsieur Biard, de nous avoir apporté votre éclairage sur tous ces sujets. Merci d'avoir été avec nous donc, depuis la Belgique. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche au Centre de recherche et d'information sociopolitique, le CRISP, à Bruxelles. Merci encore.
Avec grand plaisir.